Radio Kapi.
Nous démarrons cette série d'actualité par cette disponibilité réaffirmée de la MONUSCO pour un appui dans la prise en charge des victimes de l'explosion à la bombe de Kassindi. Réaffirmation exprimée lors de la visite du chef de bureau de la mission onusienne aux blessés. Nous dirons aussi un mot sur les hommages du gouvernement congolais à Patrice Emery Lumumba à l'occasion de la commémoration hier 17 janvier du 62e anniversaire de son assassinat. Vous suivrez à cet effet le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Avec notre invité, Dr Jérémy Mohindo, médecin chef de staff à l'hôpital général de Beni, en fin de ce journal, nous vous faisons le point sur l'état de santé des victimes de l'explosion de la bombe dimanche dernier à Kassindi. Restez avec nous car sous peu, nous vous déroulons les autres aspects de l'actualité de la RDC. Auditeurs à l'écoute, bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Le chef de bureau intérimaire de la MONUSCO Beni a visité ce mardi les personnes blessées dimanche au cours de l'attaque à la bombe à Kassindi Lubiria. C'est une agglomération du territoire de Beni frontalière de l'Ouganda. Ces blessés sont pris en charge à l'hôpital général de référence de Beni après leur évacuation appuyée par la MONUSCO. Abdourahmane Ganda a réitéré la disponibilité de la mission de l'ONU à apporter son appui pour leur prise en charge médicale. Martial Papi Mukeba pour les détails.
Parmi les 24 blessés évacués de Kassindi jusqu'à l'hôpital général de Beni, certains ont des lésions complexes et d'autres ont perdu leurs jambes. Selon le docteur Jérémy Mouindo, les cas graves seront transférés à Goma pour des soins appropriés.
Il faut d'abord stabiliser les malades. D'ici l'après-midi, nous aurons toute la situation par rapport au nombre des gens qui seront éligibles à ce transfert vers Goma.
Abdourahmane Ganda, chef de bureau intérimaire de la MONUSCO Beni, a réitéré la disponibilité de la mission de l'ONU à apporter un appui pour une meilleure prise en charge médicale de ces blessés.
Nous avons proposé et mis à la disposition des autorités nos infrastructures sanitaires pour accueillir les blessés au cas où le besoin ou les capacités de l'hôpital de référence seraient dépassées. Nous avons aussi mis à la disposition des autorités la possibilité d'évacuer, si nécessaire, des blessés de Beni à Goma, en coordination avec le CICR, bien sûr.
Lundi soir, un enfant de 14 ans parmi les blessés a succombé à ses blessures selon des sources hospitalières. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Dans le Nord Kivu, la synergie des luttes anti-mines pour le développement SILAM sensibilise les populations vivant dans les zones en conflit armé et dans les zones en proie aux terroristes, précisément dans les territoires de Beni, Irumu et Mambasa, de ne pas toucher les objets qui ressemblent aux engins de guerre, mais plutôt d'informer immédiatement les autorités locales, les services de sécurité, ainsi que les ONG des luttes anti-mines dans le milieu. Par la même occasion, son coordonnateur national demande aux structures communautaires, marchés, les écoles, les églises et les stades d'intensifier le contrôle aux entrées et sorties avec des détecteurs de métaux. Marion Gavo, coordonnateur national de SILAM, explique au micro de Bernardine Diambou.
La SILAM regrette l'accident qui est survenu le 15 janvier à Kassindi, où il y a eu plusieurs morts et beaucoup de blessés. Nous disons aujourd'hui aux gens de ne pas toucher les objets qu'on ne maîtrise pas. Nous avons par exemple les roquettes, ils ressemblent aux pilons. Les grenades, ils ressemblent aux petits ballons. Par exemple, les obus ressembleraient à des formes de poissons. Nous avons des mines antipersonnelles, des mines antichars qui ressemblent aux casseroles. Et tout ça pour faire confusion aux potentielles victimes. Et ça a toujours les couleurs attrayantes, mais aussi des couleurs de la végétation. Nous demandons donc à la population, si vous voyez des engins comme ça, de ne pas s'en approcher, de ne pas les toucher, de ne pas y jeter quelque chose, même de faible poids, de ne pas y extraire du métal, mais d'aller immédiatement dire à l'autorité du quartier, de l'avenir, aux services de sécurité, mais aussi aux ONG qui sont dans la place pour qu'ils viennent voir c'est quoi et voir s'ils peuvent déminer l'engin.
Sachez que la SILAM a également demandé au gouvernement congolais de renforcer la sécurité au niveau des frontières, d'inventorier les armes et munitions et de bien gérer et sécuriser les magasins d'armement des forces loyales. Restons au Nord Kivu où une accalmie s'observe ce mardi sur toutes les lignes de front dans le territoire des Rutshuru. Et cela depuis 4 jours maintenant, indiquent plusieurs sources dans la région. C'est précisément un groupement Tongo et Bishusha en chefferie de Buito et sur l'axe Kiwanja-Nyamilima, un groupement de Binza.
D'après un message du porte-parole militaire du M23 qui circule sur les réseaux sociaux, Willy Ngoma affirme que les M23 ne se sont pas retirés de Rutshuru. Et cela contrairement au mouvement de retrait de ces rebelles observé par la population de Rutshuru dimanche et hier lundi dans plusieurs agglomérations de la partie est de Kiwanja. Plusieurs sources estimaient que c'est en exécution de la feuille de route des recommandations issues de Luanda. Celle-ci accordait jusqu'au 15 janvier, date limite du retrait du M23 des zones occupées dans le Rutshuru et Nyiragongo et de se replier de leurs positions initiales de Sabinyo et Tchanzu. Toujours au Nord Kivu, le maire de la ville de Goma interdit la marche pacifique prévue ce mercredi 18 janvier dans la ville de Goma par le collectif des mouvements citoyens et autres groupes de pression au Nord Kivu contre l'avènement des troupes sud-soudanaises et de la force de la communauté est-africaine EAC. Dans un communiqué officiel publié ce mardi, le commissaire supérieur principal rappelle à la population que toutes manifestations publiques durant la période de l'état de siège ne sont pas autorisées. Ainsi, le colonel François Kabeya Makossa demande aux représentants des mouvements citoyens d'aller à la mairie pour déposer leur mémorandum afin d'être transmis à la hiérarchie. Les contrevenants se heurteront à la force de la loi, conclut ce communiqué. Deuxième titre de ce journal, la RDC a commémoré mardi 17 janvier 2023 le 62e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, son premier ministre. Au nom du président de la République, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a rendu hommage à ce héros national en déposant une gerbe des fleurs à son mausolée situé à l'échangeur de Limété ici à Kinshasa. C'était en présence de quelques membres du gouvernement, des membres de la famille Lumumba et de plusieurs autres personnalités du monde politique et social. Le chef du gouvernement a salué à sa juste valeur le sens du combat mené par Patrice Emery Lumumba, combat qui a contribué à sortir de la RDC de la colonisation. On écoute Jean-Michel Samalou Kondé dans cet extrait proposé par Alain Hirung.
Je le disais déjà hier, les nations doivent se souvenir des grands hommes qui ont marqué leur histoire. Ici, c'est une occasion de venir pour Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la République démocratique du Congo. Nous avions été ici au mois de juin de l'année passée pour justement consacrer ce nouveau mausolée où désormais il repose à jamais. Et aujourd'hui, nous voulions l'honorer, maintenant qu'il est chez lui, à la maison, ici en République démocratique du Congo. C'était une occasion pour nous, non seulement de commémorer ce moment une fois de plus avec la famille, mais avec toute la population congolaise, et on devait l'honorer comme tel. De lui, je vais simplement rappeler une phrase, ce qu'il disait que l'histoire de l'Afrique ne serait réellement bien dite que lorsqu'elle serait écrite par ses propres enfants et que ce serait une histoire de gloire. Je crois qu'ici, en République démocratique du Congo, pour cet héros qui est le nôtre, nous nous approprions cette recommandation, cette phrase qui était la sienne, pour désormais écrire notre histoire.
Province du Maniema, suspendue par le Conseil provincial de sécurité, le Forum pour la paix, la cohésion et le développement des filles et fils du Maniema est enfin reprogrammé du 14 au 15 février 2023. L'annonce a une fois de plus été faite ce mardi 17 janvier par le président et facilitateur de ce forum, Monseigneur François Abeli Mohoya Mouchapa, au cours d'un point de presse. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Le forum avait été reporté sur décision de l'autorité provinciale. Et ici, je voudrais annoncer que la mesure a été levée. C'est ainsi que le comité organisateur a pensé reprogrammer la tenue du forum du 14 au 15 février 2023. Et par rapport à cela, c'est donc l'invitation qui est lancée à toutes les filles et aux fils du Maniema de pouvoir venir chez eux au Maniema, à Kindu, pour cette grande messe qui va parler de l'unité, de la cohésion et du développement de notre province. Il n'y aura pas d'espace pour parler d'un individu, d'un parti politique. Il n'y aura pas non plus d'espace pour le règlement de compte. Il s'agit de projeter notre vivre ensemble. Qui peut avoir des appréhensions? Il ne s'agit pas d'un débat politique, il s'agit d'une assemblée citoyenne. Et ce qui nous préoccupe, c'est d'arriver si possible à toucher les cœurs de fils et filles du Maniema afin de promouvoir l'unité, la cohésion et le développement de cette province.
Parlons à présent de l'arrivée du pape François à Kinshasa à la fin de ce mois. Les travaux sur le site d'Ndolo où le Saint-Père dira la messe se déroulent sans faille. C'est ce qu'a indiqué le coordonnateur technique de ces travaux. Jésus-Noël Cheke a ajouté par exemple que des cliniques y seront également installées pour prendre en charge tous les problèmes de santé. Il l'a dit ce mardi lors d'une visite guidée avec la presse. Jésus-Noël Cheke est au micro de Paul Matendo.
En dehors de la régie des eaux, il y a également la présence du ministère de la Santé qui va déployer sur les sites ici 20 dispensaires mobiles fixes qu'on va installer également ici avec une capacité de pouvoir avoir la prise en charge d'au moins une dizaine de personnes pour chaque centre de santé qui va être déployé, en dehors des ambulances et des cliniques mobiles. Donc ici sur place, la manière dont les choses sont structurées, même des interventions chirurgicales pourront être effectuées et exécutées sur ces sites. Donc toutes les dispositions, aussi en réanimation, en intervention chirurgicale, en petite observation, tout est pris en compte pour que rien n'a été oublié. Donc voilà un peu la configuration de ces sites. Et une particularité, Excellence, vous êtes entré par l'entrée principale d'Ndolo, mais en dehors de cette entrée principale, il y a 30 accès qui sont ouverts vraiment en 360 degrés. Vous pouvez accéder à partir de ces sites au niveau de l'ISTA, à partir de la base navale, à partir de l'avenue du Militant, à partir de Poilou.
L'actualité nous amène dans la province de l'Équateur pour parler de la remise mardi à Mbandaka d'un important lot d'intrants par le ministre national en charge de la pêche et de l'élevage en mission officielle. Ce don du gouvernement central a pour but de booster la production halieutique dans la ville. Outre les filets et hameçons, il est composé également des moteurs hors-bord pour la mobilité des pêcheurs ainsi que des congélateurs destinés à la conservation des poissons. Le point avec Paul-Richard Malengela.
Ce don du gouvernement central a indiqué le ministre de Pêche et Élevage, Adrien Bokele, fait suite à la promesse du chef de l'État lors de la tenue de la 9e session des conférences des gouverneurs dans la ville. Il servira, a-t-il dû, à l'amélioration des conditions de travail et de vie des pêcheurs, ce en attendant le projet de la pêche industrielle au large de Mbandaka. Adrien Bokele.
Il y a cette construction-là du port de pêche. Ce que j'avais dit lorsque je suis arrivé. N'oubliez pas aussi que le gouvernement national est en train de signer les contrats pour l'achat de bateaux de pêche. Non seulement pour la côte occidentale, mais aussi dans les eaux intérieures. Et sur le fleuve, nous allons acheter 5. Les dossiers déjà prêts, je crois qu'à la fin de ce mois ou au début du mois prochain, on va devoir signer le contrat.
Toutefois, le ministre a mis en garde le bénéficiaire contre la vente de ces matériels. Ce qui est une première action du genre, a souligné le gouverneur Bobo Boloko. Ce dernier a quant à lui recommandé aux pêcheurs une bonne organisation et une utilisation à bon escient des dits matériels. Tout en saluant cet appui gouvernemental, les pêcheurs ont dénoncé les tracasseries des éco-gardes de l'UCCN qui étouffent leurs activités. Le ministre Bokele a promis d'en faire part à qui de droit afin de leur permettre de pratiquer en toute inquiétude leur noble métier. Bandaka pour Chamalengue, la Radio Okapi.
Radio Okapi amorce une série de reportages sur la province du Lualaba. Celle-ci est l'une des quatre issues du démembrement de l'ancien Katanga. Il est composé de 6 territoires. Son chef-lieu s'appelle Kolwezi, dont notre confrère Jean Gando nous présente la carte postale.
La ville de Kolwezi a acquis le statut de chef-lieu de la province du Lualaba depuis 2015, année marquant le découpage des provinces. Elle a une superficie de 213 km² avec deux communes qui sont Dilala et Manika. Elle a une densité de 6802 habitants au km². Sa démographie est estimée à plus d'1 200 000 habitants. Kolwezi, comme le reste de l'espace Grand Katanga, compte deux saisons, la saison pluvieuse et la saison sèche qui dure environ 6 mois chacune. Elle a un aéroport qui est en pleine rénovation. Partant de Kolwezi, il y a lieu de rejoindre la Zambie par la route des Solwezi. De Kolwezi, passant par le territoire de Dilolo, on peut atteindre l'Angola. Son réseau hydraulique est dominé par le Lualaba, nom local du fleuve Congo qui s'étend sur près de 15 kilomètres. Elle compte deux barrages, Nzilo et Nseke. Un troisième, le barrage de Busanga, est à 50 kilomètres dans le territoire de Muchacha. Son inauguration interviendra très prochainement. Alors qu'il est, la ville de Kolwezi connaît un certain essor, notamment en termes d'infrastructures, dont les routes et les bâtiments qui sont en pleine construction. La suite de cette série sur le Lualaba portera sur l'aspect économique dans son volet du secteur minier. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les opposants du parti de la coalition des citoyens pour le changement espéraient une libération sous caution, mais elle leur a été finalement refusée ce mardi, au deuxième jour de leur procès devant le tribunal de première instance d'Harare au Zimbabwe. Ils comparaissaient pour rassemblement jugé illégal. Le parti de Nelson Chamisa dénonce une tentative d'intimidation à quelques mois de l'élection présidentielle. Et puis les groupes extrémistes Al-Qaïda et État islamique alimentent l'insécurité dans le centre du Mali et continuent de s'affronter à proximité des zones peuplées des régions du nord de Gao et de Menaka, souligne dans un nouveau rapport le secrétaire général de l'ONU. D'après Antonio Guterres, les attaques menées contre les civils par des groupes terroristes, la lutte d'influence entre eux et les activités violentes menées par des milices communautaires restent une réalité quotidienne glaçante, tout comme les attaques contre les forces de défense et de sécurité maliennes et contre la MINUSMA.
L'invité.
L'invité de la rédaction est le médecin chef de staff à l'hôpital général de référence de Beni. Dr Jérémy Muhindo s'exprime sur l'état de santé et la prise en charge des personnes évacuées à Beni après l'attaque à la bombe survenue dimanche dernier à Kassindi-Loubiria dans le territoire de Beni. Dr Jérémy Muhindo s'entretient avec Martial Papimukeba.
Dr Jérémy Muhindo, bonjour.
Bonjour messieurs les journalistes.
Après l'attaque à la bombe à Kassindi, quel est le nombre exact ou précis des blessés que vous avez reçu ici à l'hôpital général de Beni et dans quel état se trouve-t-il?
Le même dimanche, là, nous nous sommes déployés sur terrain pour évaluer rapidement, aux côtés de nos collègues de Kassindi, évaluer la situation sanitaire de ces malades. Et à cette occasion, nous avions immédiatement récupéré 9. Nous les avions donc évacués de Kassindi vers l'hôpital général de référence de Beni pour des soins appropriés. Et dans la journée d'hier, nous sommes repartis encore chercher les autres malades et nous avons ramené 15 malades. 15 malades, donc ce qui porte le total à 24 patients blessés qui se soignaient à l'hôpital général de référence de Beni.
Et dans d'autres hôpitaux?
Ici à Beni, c'est essentiellement cet hôpital général de référence de Beni qui offre ce paquet de prise en charge des blessés par balles, par armes ou par explosifs. Les autres patients, les autres blessés, ils sont restés à Kassindi, mais c'est des cas qui sont jugés moins graves.
Vous connaissez leur nombre?
Oui, au total, nous avions dénombré 73 blessés et que d'autres sont des cas de blessures légères et qui sont en train de bénéficier des soins, même en ambulatoire. Mais les 24 que nous avons ramenés de Kassindi à Beni, ce sont des cas qui étaient jugés vraiment critiques. Mais malheureusement, nous avons perdu un parmi eux qui a succombé juste quelques instants après son admission à l'hôpital. Nous avons commencé à travailler toute la nuit du dimanche au lundi et là nous sommes en train d'opérer les malades. Nous pensons que la situation va se normaliser.
Parmi les blessés qui se trouvent ici à l'hôpital général des références de Beni, est-ce qu'il y a ceux qui nécessitent une évacuation vers d'autres villes, par exemple Goma ou Kinshasa?
Nous sommes en train de sélectionner ceux qui sont vraiment dans des situations critiques, mais avec les partenaires CICR, avec les gouvernements, nous essayons de voir et avec tous les autres partenaires. Il y a la MONUSCO qui nous a souvent aussi aidé dans l'évacuation des patients. Donc nous allons faire le point avec ceux qui sont dans ces comités de crise pour analyser cette question des possibilités d'évacuer les malades qui nécessitent vraiment des soins appropriés dans les formations sanitaires de Goma.
De quoi souffre-t-il exactement?
C'est des lésions vraiment complexes. Je me rappelle, il y a certains malades qui ont déjà perdu quasiment leurs jambes. Donc, c'est des lésions complexes abdominales, des lésions au niveau des jambes, au niveau de la tête, même des brûlures. Donc, il y a aussi des lésions de brûlures. Nous essayons de voir dans quelle mesure stabiliser ceux qui peuvent être éligibles à cette évacuation.
Disposez-vous des moyens pour prendre en charge ces malades?
Nous sommes une structure déjà spécialisée dans la prise en charge des blessés de guerre, et ce sont nos partenaires de CICR qui nous appuient. Nous avons tout le nécessaire. Nous avons, sur le plan ressources humaines, nous avons déjà des équipes très bien formées. Et sur le plan logistique, donc, nous avons tous les intrants nécessaires de prise en charge. Il est vrai que le nombre, il est assez gras. Donc, là, nous avons légèrement dépassé la capacité d'accueil de notre unité de prise en charge pour un centre de 40 lits, qui on est déjà autour de 48. Donc allez-y comprendre que nous avons dépassé notre capacité d'accueil. Du coup, nous avons pris certains malades, nous les avons même dans les autres pavillons qui ne sont pas essentiellement pavillons de blessés de guerre.
Donc c'est-à-dire il y a 23 malades qui se sont joints à d'autres blessés.
Oui, justement, à l'espace de 24 heures, nous avons admis 24 patients qui sont venus s'ajouter à d'autres patients, à d'autres anciens patients qui étaient aussi dans les services, et une vingtaine de patients. C'est ce qui porte déjà l'effectif à autour de 48-50 patients dans les services.
Docteur Jérémy Mouindo, merci.
Je vous remercie aussi.
Et voilà qui met un terme à cette édition du journal sur Radio Okapi. Fidèles auditeurs, nous vous disons sincèrement merci pour votre fidélité légendaire. Ce journal vous a été préparé par Alain Irung. Jean-Claude Nsiala a assuré la mise en onde et Billy Ivan Lutumba vous l'a présenté au nom de toute cette équipe. Je vous dis sincèrement merci.